civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spirou Maoulé.
Est-ce que les gens naissent pareils ou pas ?
Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Arwevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission Civisme et droits du citoyen. Civisme et droits du citoyen, c'est une heure pour comprendre, maîtriser et avoir des informations sur le droit, la citoyenneté et le civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est votre rendez-vous quotidien pour vous permettre de mieux appréhender la chose juridique. Commençons notre émission de ce jour avec un peu de religion, car la notion que nous avons à partager aujourd'hui est d'inspiration religieuse. Avant que les États ou les gouvernants ne soient souverains, la souveraineté a appartenu et appartient toujours à Dieu. Quelle que soit la religion que nous pratiquons, quelles que soient nos croyances, en dehors de ceux qui ne croient en rien, le souverain, c'est Dieu. Un souverain est un dirigeant, un roi, un seigneur. Et les Écritures désignent souvent Dieu comme celui qui règne sur toute chose. Le souverain suprême est donc Dieu, qui règne sur toute créature. On parle de la souveraineté divine, et c'est le règne du Seigneur sur la création. En tant que souverain, il exerce sur cette création sa domination entière. Celle-ci se manifeste à travers son autorité divine, son contrôle sur toutes choses, sa présence auprès de son peuple, ainsi que dans l'ensemble de la création. Le mot « souveraineté » apparaît rarement dans les traductions récentes des Écritures saintes. Il représente néanmoins un concept biblique important. Le concept biblique de la souveraineté et de la seigneurie divine se manifeste principalement à travers le contrôle, l'autorité et la présence de Dieu. Je vous invite à lire à ce propos John Fram dans son livre « The Doctrine of God » à la page des pages 21 à 115. Son contrôle implique que tout se déroule selon son plan et selon sa volonté. Son règne exige que chacun de ses ordres soit exécuté. Et sa présence signifie que ce contrôle et cette autorité imprègnent l'ensemble de nos expériences. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous pourrons être est, dans tous les cas, d'essence divine. Puisque le paraître ou l'être prend toujours son essence dans l'être que Dieu a fait de nous. Il est vrai que certains diront que nous devenons ce que nous cherchons à être. Mais parfois, on devient ce qu'on n'a pas voulu. Les vicissitudes de la vie nous conduisent à devenir quelque chose d'autre que ce que nous aurions espéré. Mais que ce soit ce que nous voudrions ou que ce soit ce que nous serions devenus, nous partons et nous naissons toujours et d'abord de l'autorité de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons échapper ni à sa justice, ni à son amour. En réalité, même si les Écritures enseignent que Dieu contrôle tout, nous ne devons pas considérer sa souveraineté comme un déterminisme mécanique et impersonnel. La seigneurie souveraine de Dieu est profondément personnelle. En tant que Seigneur, Dieu est non seulement au contrôle de toutes choses, mais il formule également ses ordres, des paroles de vie qui régissent quotidiennement avec dignité la vie de ses créatures. Et en tant que Seigneur, il s'est engagé souverainement à être avec ceux qui lui appartiennent. La souveraineté divine est donc un concept vaste qui comprend tous les actes et aspects de Dieu, y compris son amour. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains se demandent si Jésus est Seigneur, comment peut-il se laisser tuer sur la croix de la honte alors qu'il est souverain, alors qu'il dit qu'il est un avec le Dieu, le Tout-Puissant. C'est reconnaître en réalité que la souveraineté de Dieu ne doit pas être conçue comme la souveraineté des hommes. Il ne s'agit pas d'un Dieu qui, comme au départ, balayait tout du revers de sa main, notamment avec tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Mais il s'agit aujourd'hui d'un Dieu tolérant, d'un Dieu amour, d'un Dieu qui sait donner la liberté à l'homme de choisir de rester avec lui ou de ne pas être avec lui. Dieu est l'extrême, Dieu est le tout-puissant, Dieu est le grand souverain. Et quand nous revenons au temporel, après avoir rappelé l'essentiel qui est par rapport à Dieu, nous définissons la souveraineté comme le pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur un territoire dit national, et cela nous donne la souveraineté interne et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements dans la souveraineté externe. Ainsi donc, dans le quotidien de nos vies, dans les schémas des êtres humains, dans l'organisation des hommes, la souveraineté est le pouvoir suprême de l'État. Quand nous nous rappelons que l'État, c'est une population vivant sur un territoire donné sur lequel un gouvernant exerce une certaine prérogative de gestion. Nous comprenons donc alors que l'État, en tant qu'entité différente des autres États qui sont également des entités, l'État est souverain. Souverain en ce sens que sur son territoire, il a plein pouvoir de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il doit. Mais à l'égard des autres États, dans le schéma international, il a une indépendance absolue qui fait qu'il ne doit pas s'ingérer dans d'autres États et que d'autres États ne doivent rien lui imposer, lui demander si cela ne lui convient pas. On parle de la souveraineté externe. La notion a donc un aspect interne et un aspect externe, mais dans les deux situations, il y a une certaine légitimité de chaque État qui fait que dans l'ordre international, tous les États, quelle que soit leur superficie, doivent en principe se valoir, doivent en principe se sentir égaux. Tous les États doivent se savoir de même grade, de même importance les uns face aux autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Organisation des Nations Unies, dès lors qu'un État est reconnu et siège, a en principe les mêmes prérogatives, les mêmes privilèges que tous les États. Tout État souverain sur l'échiquier international vaut autant que tout autre État. Mais si nous le disons ainsi, est-ce que dans la réalité des faits que nous constatons aujourd'hui, la règle demeure? Est-ce que la souveraineté existe encore quand un pays peut, avec ses militaires, aller prendre un président en exercice d'un autre pays et en faire prisonnier et le faire sortir du pays? Est-ce que la souveraineté existe encore? Est-ce que la souveraineté existe lorsqu'un pays ordonne à un autre de mettre à côté certains autres, de mettre en hors d'état de nuire certains autres, et que pour cette raison, on pilonne les villes jour et nuit? Est-ce que la souveraineté existe toujours? Est-ce que la souveraineté existe lorsqu'on donne des dictats à des chefs d'État pour qu'ils se comportent comme des vassaux d'autres pays? Est-ce que la souveraineté existe véritablement? Et encore, si nous prenons nos États africains qui, à un moment donné, se sont déclarés ou ont été déclarés indépendants, est-ce que ces États jouissent de cette souveraineté? Est-ce que ces États comptent autant que les États occidentaux sur l'échiquier national? Est-ce que le fait d'avoir même créé un conseil de sécurité où tout le monde n'est pas admis à siéger, tout le monde n'a pas le droit de veto, est-ce qu'en réalité, la souveraineté est identique pour tous les pays? De quoi parlons-nous alors? Est-ce que souveraineté égale égalité des États qui composent les Nations Unies?
Radio qui déchire.
La définition de la souveraineté retenue aujourd'hui en droit est celle énoncée par Louis Le Fur à la fin du 19e siècle et qui dit que la souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Je vais reprendre une deuxième fois la définition là. La souveraineté est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Cette définition nous fait retenir deux critères. Le premier critère, c'est celui de l'État souverain qui n'agit que selon sa propre volonté. Et donc, il appartient à chaque État, à chaque nation, à chaque peuple de disposer de lui-même, de s'auto-déterminer, de choisir sa destinée, de tracer son propre chemin à travers l'histoire des peuples. Il s'agit donc pour le peuple de choisir son identité à travers ses armoiries, de choisir ses représentants à travers une constitution qui lui est spécifique, de choisir sa propre monnaie, de vivre sa propre culture avec sa propre langue et ses propres conceptions de la divinité. En clair, un État souverain est l'État qui vit en fonction des aspirations de son peuple. Le peuple est le seul déterminant de la souveraineté. Le peuple est le seul déterminant de l'aspiration nationale. Ni gouvernant, ni État étranger ne doivent imposer au peuple ni la religion, ni la race, ni la vision, ni les tests, ni la volonté, ni la monnaie, ni rien du tout. Chaque État doit prendre la destinée qui lui convient. Chaque État doit décider de comment il veut se construire pour offrir à sa nation, à la génération présente et futur, un vivre ensemble cohérent avec sa culture, avec ses ambitions, avec ses visions. Mais il faut préciser que chaque peuple peut puiser chez un autre des éléments de détermination si celles-ci lui sont familières, si celles-ci lui permettent de déterminer l'épanouissement de son peuple. Un peuple peut tirer expérience de ce qu'a vécu un autre pour se forger un vivre ensemble. C'est vrai que nous disons que chaque peuple choisit sa destinée en fonction de son histoire. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, certes, mais il ne faut pas se cantonner dans ce qui n'est pas bien. Il faut toujours chercher à améliorer son vécu. Et donc, on peut copier ce qui est bon chez les autres, contextualiser et l'implémenter chez soi. Mais cela doit correspondre à la volonté du peuple. Cela ne doit lui être ni imposé, cela ne doit pas lui être fait en dehors de ce peuple-là. Et donc, par exemple, si le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple est considéré aujourd'hui comme une valeur universelle, chaque peuple peut adopter cela et mettre en œuvre en fonction de l'évolution de son histoire et de sa réalité qu'il vit. Il y a donc des façons de vivre ensemble qui peuvent être copiées, mais cela doit correspondre à l'identité de chaque peuple. On ne peut pas demander à un peuple de copier intégralement la culture d'un autre peuple. Chaque peuple avec son savoir-vivre, chaque peuple avec son savoir-faire, chaque peuple avec son savoir-être. Autorisons donc tous les peuples de cette planète à aspirer à ses propres réalités et à chercher à les mettre en œuvre. C'est cela que nous appelons l'autodétermination. Il ne s'agit pas de se centrer uniquement sur soi, parce qu'aujourd'hui, la globalisation, la mondialisation fait que un peuple aura toujours des besoins à faire ou à avoir d'un autre peuple, mais en réalité, cela ne doit pas devenir une condition existentielle. Chaque peuple a le droit de s'autodéterminer, qu'il soit un pays développé, qu'il soit un pays sous-développé ou qu'il soit un pays en voie de sous-développement, comme le dirait quelqu'un que je connais très bien. Le second caractère, le second critère que nous tirons de cette définition, c'est que cette volonté ne peut se manifester qu'à l'intérieur des règles de droit international, coutumier ou conventionnel, lequel comprend le droit produit par des organisations internationales à caractère universel, comme l'ONU, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO et autres regroupements régionaux. Comme je le disais tantôt, tous les peuples doivent pouvoir se frayer une place, doivent pouvoir s'auto-déterminer, certes, mais dans le concert des nations, il y a des regroupements qui existent et qui peuvent permettre à des peuples de se côtoyer et de mutualiser leurs efforts pour un meilleur bien-être de leur population. Et le droit international a en principe des règles, des principes. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en principe, il a, parce que malheureusement, il y a eu ces dernières années, ces deux dernières années, tellement de violations du droit international par les puissances armées que nous nous demandons si ce principe du droit international demeure toujours la règle ou si ça devient une règle uniquement pour les États dits faibles ou les États moins armés. Lorsque, à un moment donné, un État trouve qu'il doit annexer un autre parce que son peuple est plutôt là-bas, malgré tout ce que la communauté internationale dit, et que cette communauté internationale n'est pas capable, n'est pas apte d'obliger cet État à revenir sur sa position, on se demande si le droit international est toujours le droit international de tous les pays ou c'est simplement un droit international qui s'applique ou qui ne condamne que les États qui n'ont pas de puissance armée. La souveraineté est-elle uniquement pour les États qui ont la puissance nucléaire?
Que dirait-on quand l'Est impressionne chance pour trouver un monsieur derrière. Que fera-t-on quand les âmes s'affoleront pour un peu plus qu'une belle image, pour que ses majestés ne soient plus tentées de retoucher leur bel âge.
État proclame sa souveraineté à travers sa constitution et son organisation. Ainsi, par exemple, le Togo a reproclamé sa souveraineté dans la constitution de 2024 en son article 4 qui dispose « La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le gouvernement de la République est civil. Les forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir la souveraineté nationale et l'indépendance nationale, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel. » Fin de citation. Donc, la Constitution de 2024 a repris solennellement la souveraineté de l'État togolais à travers cet article. C'est pour cette raison que l'évolution du monde permet de voir que nous avons eu des États-nations avec la pleine souveraineté nationale qui ont basculé avec les regroupements internationaux pour appartenir à des entités plus grandes et plus diversifiées, avec la perte d'une partie de la souveraineté au profit des grands ensembles régionaux, avant de voir émerger de plus en plus des regains nationalistes qui vont jusqu'à des désirs de retrait des grands groupes, comme on a pu le voir dans plusieurs pays. Donc, chaque État, à un moment donné, a proclamé sa souveraineté nationale dans les constitutions que ces États se sont données. Puis, à un moment donné, chaque État, en voulant un mieux vivre pour son peuple, a opté pour une perte de partie de sa souveraineté en rentrant dans les grands ensembles ou régionaux ou continentaux. Ainsi, par exemple, en Europe, la plupart des pays européens ont perdu un peu de leur souveraineté au profit de l'Union européenne. Tout comme les États fédérés des États-Unis qui ont, depuis leur indépendance, donné une grande partie de leur souveraineté à l'État fédéral. Tout comme nos pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont donné une partie de leur souveraineté à la CEDEAO pour les représenter sur un certain nombre de dossiers. Seulement, avec l'évolution de l'histoire, les États ont fait marche arrière et le nationalisme fait que certains États, pas seulement en Afrique, même dans les pays européens, ont voulu reprendre leur souveraineté pleine et entière. C'est le cas du Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne. C'est le cas des pays du Sahel qui sont sortis de la CEDEAO pour se regrouper entre eux dans les États du Sahel. Et donc, en réalité, chaque fois qu'un peuple doit se voir un peu gêné, un peu confisqué dans sa souveraineté, ce peuple doit pouvoir se lever, doit pouvoir dire non et doit pouvoir réclamer son entière souveraineté. La souveraineté des États africains semble être malheureusement un leurre, car malgré une indépendance proclamée, l'équivalent de la souveraineté externe, les États africains sont toujours sous la domination des États non africains, notamment occidentaux, chinois, russes et turcs. La position des pays africains face aux enjeux mondiaux ne pèse pas devant les puissances occidentales ou américaines, et les sommets d'un de ces États avec le continent africain est un témoignage éloquent de l'absence de souveraineté des États africains. Et nous en souvient encore de cette fameuse marche des chefs d'État africains lors de l'attaque du journal Charlie Hebdo, avec des pleurs de certains dirigeants, comme s'il n'y a pas eu beaucoup plus de malheurs chez eux, et que pourtant aucun État européen n'a envoyé son chef d'État pour faire une marche, pour pleurer pour ce qui est arrivé chez eux. Ou encore, on se rappelle de l'alignement presque forcé sur Israël, malgré les violences en Palestine. Les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest brillent les plus avec l'absence de souveraineté, car ils ne sont même pas maîtres de leur monnaie et dépendent de la France avec le franc CFA. La plupart des décisions politiques sont dictées en Afrique par la France à travers des conseillers français, des chefs d'État africains, si carrément le président de la République n'est pas à la solde de la France. Et aujourd'hui, où certains pays se dégagent de la tutelle de la France, la question est de savoir si ce n'est pas un nouveau tuteur que devient la Russie pour ces pays-là. Aujourd'hui, les remerciements du président malien pour la Russie, qu'il a aidé à sortir d'une attaque terroriste d'envergure à la fin du mois d'avril 2026, ressemble à quelques dénonciations directes et volontaires, mais en tout cas à l'absence d'une souveraineté militaire. Aujourd'hui, on a l'impression que même les États du Sahel qui proclament leur souveraineté sont obligés de se protéger, de fonctionner qu'avec encore un autre État ou hors Afrique. Et donc, la question demeure, est-ce que même avec ces proclamations de souveraineté dans les États du Sahel, ils n'ont pas plutôt changé simplement de tuteur? La Chine et certains États arabes du Golfe tentent également de porter atteinte à la souveraineté africaine. L'approche de la Chine est fortement institutionnalisée, se traduisant par des investissements dans les médias africains et les formations au journalisme pour contrôler la sphère de l'information. À titre d'exemple, en 2022, la Chine a ouvert sa première école de direction de partis politiques à l'étranger en Tanzanie, afin de renforcer son modèle de gouvernance dominé par le parti-État. Les États du Golfe ont été actifs en Afrique du Nord et dans la Grande Corne d'Afrique, soutenant des représentants politiques par procuration dans le but d'établir une plus grande influence et de soutenir des dirigeants politiques autocratiques, contrecarrant ainsi les aspirations démocratiques des citoyens. On voit donc que sur tout le continent africain, aujourd'hui, le jeu, c'est ou de garder la suprématie de l'Europe sur les pays, ou alors de réaliser le changement en implantant la suprématie ou de la Russie, ou de la Turquie, ou de la Chine. On remplace un maître par un autre maître, et donc la souveraineté n'est toujours pas au rendez-vous. On a l'impression que les États africains ne peuvent pas arriver à s'allier entre eux pour se maintenir dans le giron continental et international sans se soumettre à quelqu'un d'autre. On a l'impression que la souveraineté nationale telle que ça a été proclamé aux indépendances, telle que ça continue par être proclamé dans les constitutions, on ne peut jamais les atteindre parce que l'Occident, parce que la Chine, la Russie, la Turquie et autres ont décidé de faire du continent africain leur terroir, leur base, leur champ où ils viendront puiser allègrement les ressources dont nous regorgeons. Souveraineté, oui. Autodétermination, oui. Mais est-ce que nous nous y attelons? Est-ce que nous pouvons nous dire que nous travaillons pour? Est-ce que ce n'est pas que des déclarations dans des textes, dans des paroles, et que dans la pratique, nous sommes toujours loin de la souveraineté nationale.
That's the sign of a victory.
comme si cela ne suffisait pas, c'est de l'intérieur que survient l'atteinte la plus grave de la souveraineté du peuple. La dernière atteinte à la souveraineté des États africains vient des chefs d'État et de gouvernement africains. Dans les États africains, on constate un accaparement de la souveraineté de l'État par le pouvoir exécutif, plus particulièrement par le chef de l'État. C'est le continent où, encore en ce 21e siècle, l'histoire du pouvoir politique est celle de la confiscation, de la privatisation, de la sacralisation d'un individu ou d'un groupe d'individus. Dans ces États, le chef de l'État semble incarner en lui seul la souveraineté de l'État, sinon l'État même. Et si on se plaint des anciens chefs d'État qui sont toujours au pouvoir après 30 ou 40 ans et qui s'accrochent au pouvoir, on doit relever également les nouveaux qui arrivent et qui font les mêmes choses, avec parfois la bénédiction d'une majorité de la population instrumentalisée par les circonstances factuelles de guerre ou de violence. Je me réfère là aux juntes du Sahel qui, avec des théories de complot de l'Occident, arrivent à aduler, à déifier des personnes qui deviennent les seuls maîtres, les seuls à avoir la vérité. Le peuple n'a plus rien à dire, c'est les maîtres qui ont tout à dire. Ou encore, avec la volonté de changer les textes constitutionnels, comme en RDC ou au Tchad. Pour finir, il me plaît de partager avec vous, histoire de nourrir nos réflexions, une partie des propositions faites dans le rapport alternatif sur l'Afrique, publié en décembre 2020, qui a pour objectif de contribuer à la consolidation des transformations à l'œuvre dans les sociétés et institutions africaines vers l'autonomie et la souveraineté. Parce que, en réalité, nous comprenons que pratiquement tous les États africains, à l'instar de quelques-uns qui ont la notion de royauté et qui se sont installés et ont déterminé leur peuple à les suivre dans la royauté, en dehors de ces quelques rares peuples, nous avons l'impression que la souveraineté n'existe nulle part en Afrique. Et même dans ces quelques rares pays que nous disons un peu plus souverains dans leur propre identité, on voit parfois aussi des relents de perte de souveraineté puisque certaines de leurs décisions semblent être dictées par l'extérieur. Que faire donc pour arriver à avoir la souveraineté réelle de nos États tels que nous y aspirons aujourd'hui, avec des jeunes qui crient partout « souveraineté ». Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle souveraineté? De quelle souveraineté parlons-nous? Qu'est-ce qui nous convient? Qu'est-ce que nous pourrons avoir? Et donc, je vais nous proposer de partager ce rapport. Il vise le renversement idéologique et épistémologique des analyses sur le continent, l'approfondissement et la diversification des enjeux et domaines adressés et les indicateurs de mesure des progrès et de la souveraineté des Africains. Je ne prétends pas que toutes les bonnes solutions se trouvent là-bas. Loin de là, ce n'est que des pistes de réflexion. Ce n'est que des espoirs traduits dans des tests et qui doivent être complétés, mûris, améliorés. Et donc, dans ces rapports, nous lisons, par exemple, que du point de vue du conflit entre souveraineté avec l'impérialisme et l'hégémonie extérieure, l'exercice de la souveraineté africaine n'est possible que par une stratégie de déconnexion vis-à-vis du système capitaliste mondialisé. Comment cela va se faire, cette déconnexion? Il faut qu'ensemble, les États africains élaborent des stratégies pour y parvenir. Tant que nous vivrons dans le schéma capitaliste occidental et américain, il serait très difficile pour nous d'émerger, car tout a été planifié de façon à ce que nous n'ayons jamais la souveraineté, ce qui ne va pas dans l'intérêt. Ce qui est dans l'intérêt de l'Occident, c'est que nous ne soyons jamais souverains. Donc, il faut trouver une stratégie de déconnexion. Il ne faut pas aller au hasard. Il ne faut pas se lancer avant de réfléchir. Il faut que les États africains réfléchissent pour trouver une stratégie de déconnexion. Une stratégie qui fasse que nos propres monnaies en Afrique ne soient plus arrimées à autre chose, ne soient plus inféodées à d'autres monnaies. C'est important. Deuxième élément, sur le plan économique, les pays africains devaient se focaliser sur le développement de l'industrie textile, accompagné par un protectionnisme éducateur. Ils devraient aussi trouver les moyens de tirer un meilleur profit de leurs ressources naturelles en réinventant les stratégies de valorisation locale. Troisième point, en culture, sur la base des savoirs endogènes, des artefacts, des mantifacts et des sociofacts, en amont, doivent être exploités de façon judicieuse et à des fins d'application potentiellement vertueuses pour l'artisanat, l'agriculture, la santé, la pharmacopée, l'architecture et les usages de la biologie. Il faudrait aussi culturaliser le panafricanisme en acte, ce qui apporterait un indispensable écho à l'enracinement des souverainetés. Quatrième élément, face à la révolution numérique, une gestion autonome des noms nationaux de domaines de premier niveau est nécessaire pour promouvoir l'adressage de serveurs web ou de messagerie au profit de leurs noms et non de ceux des noms de premier niveau génériques. Il faut rompre avec l'utilisation des logiciels propriétaires en mettant en place des politiques publiques qui rendent obligatoire l'utilisation des logiciels libres dans le secteur public et parapublic, notamment dans le secteur éducatif. Il faut aussi investir dans la création des centres de données et prendre en charge la question préoccupante de la sécurité informatique. Sur le plan politique, et c'est le dernier point, la mise en place d'un État fédéral politiquement centralisé et dirigé sur une base collégiale garantira la souveraineté interne. Il importe de construire un large front progressiste adossé à un projet de société alternatif de transformation radicale de l'ordre capitaliste et néocolonial. Souveraineté ne doit plus être un mot. La guerre n'est pas la solution à la souveraineté, mais une stratégie réfléchie, une stratégie cohérente, une stratégie endogène qui tienne compte de nos propres valeurs africaines serait un atout pour que nous puissions retrouver notre souveraineté. En attendant, peut-être qu'il faut réfléchir mieux assorti de l'arrimage du franc CFA, assorti de la tutelle des pays occidentaux pour que nous soyons mieux. Civisme et droits du citoyen pour aujourd'hui, c'est bien fini. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse.